rester parmi nous à l'écoute, puisque vous pourrez échanger à l'issue donc, de l'intervention de Thierry Goguel d'Alendance sur justement les rites de passage. Ça tombe bien. Merci d'avoir fait le lien, monsieur, puisque ça permet d'entendre maintenant cette prochaine intervention.
Merci à vous, merci pour la ténacité de la MDA 23 pour la réalisation de cette journée. Donc effectivement, je suis anthropologue et pour tout de suite situer, donc, j'ai fait des terrains dans différents pays, un peu en Équateur, un peu en Guyane, un peu à Mayotte, un peu à Kinshasa, mais mon terrain principal c'est le Congo-Brazzaville et donc c'est à partir de là que je vais vous en parler. Et peut-être tout de suite une petite anecdote pour situer le débat. Lors d'un de mes derniers voyages à Brazzaville, dans un village de brousse, une maman me fait cette réflexion. Il faut savoir que le Congo-Brazzaville, ancienne colonie française qui a obtenu son indépendance en 1960, sous dictature de Denis Sassou Nguesso depuis un certain temps, a connu de nombreuses guerres civiles. Et ces guerres civiles ont amené un exode rural important. Et c'est à partir de ce constat de village déserté que cette maman me parle. Elle me dit, vous savez Thierry, ici au village, un enfant de 12 ans, il se débrouille. Et elle m'explique, un petit garçon de 12 ans, il sait chasser les oiseaux, il sait pêcher, il sait se fabriquer une petite hutte le soir pour s'abriter. Une petite fille de 12 ans, elle connaît tous les légumes. Elle sait cultiver le manioc, elle sait préparer le sakasaka, qui est le plat de base, et elle peut même accompagner sa mère et ses sœurs pour les assister lors d'un accouchement. Et cette maman rajoute, « Mais vous savez Thierry, à Brazzaville, les enfants de 12 ans, ils ne savent plus rien faire. » Voilà. Elle m'avait fait une petite leçon d'anthropologie sans le savoir sur une distinction entre société coutumière et société moderne. Chez nous, ça a déjà été évoqué aujourd'hui, le statut de l'enfant et de l'adolescent a énormément évolué. David Le Breton, dans sa brève histoire de l'adolescence que M. Merlier évoquait ce matin, rappelle qu'en 1945, la moitié des hommes français de 16 ans travaillent. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, on voit se déployer une adolescence interminable. Si on la prend depuis le concept forgé par François de Singly, l'adolescent, jusqu'au concept entré dans le dictionnaire de la langue française forgé par l'insupportable Tony Anatrella, adolescent, de l'adolescent à l'adolescent, un imaginaire se déploie qui fait qu'on peut être vécu ou se vivre comme un adolescent, quasiment du berceau à la tombe. Je vous rassure, c'est un imaginaire. Cet entre-deux interminable nous rappelle plusieurs choses. D'abord, que l'adolescence, et ça ne va pas faire plaisir aux ados, est un luxe des sociétés modernes. C'est un temps de formation supplémentaire que nous accordons à nos enfants. Un temps de formation de plus en plus long, avec un paradoxe extraordinaire, c'est qu'on les forme plus longtemps et nous les infantilisons de plus en plus. Alors les rites de passage, j'espère que vous avez amené vos sacs de couchage, parce qu'il va falloir 3 jours et 3 nuits pour en parler. On les doit à un génial folkloriste de la fin du 19e, début du 20e, Arnold von Gennep, né en 1873, mort en 1957, et qui forge le concept en 1909, avec une idée très simple, qui n'a pas fait florès à son époque. Hein. Il s'est fait taper dessus par Durkheim et surtout par Mauss, mais qui ensuite a été reconnu comme quelque chose de véritablement important, parce que c'est peut-être le seul invariant des sociétés humaines, c'est les rites de passage. Tout ce qu'on avait pensé être invariant, les structures élémentaires de la parenté, le tabou de l'inceste, le tabou de l'anthropophagie, on a toujours trouvé des exceptions, mais pas les rites de passage. Parce que les rites de passage, c'est la manière dont les hommes, depuis l'aube de l'humanité, entendez hommes et femmes, hein, et même trans, depuis l'aube de l'humanité, ont pensé que pour affronter les passages périlleux de l'existence, c'était plus facile collectivement qu'individuellement. Et c'est d'ailleurs là qu'il y a d'ailleurs une première grande différence entre les sociétés coutumières et les sociétés modernes ou de l'hypermodernité. Dans les sociétés coutumières où je travaille, l'individu, c'est peanuts. Sa marge de liberté, elle est minusculissime. l'individu s'efface devant le collectif. Chez nous, c'est absolument l'inverse. Le collectif s'efface devant l'individu. Un de mes professeurs, Maurice Godelier, disait « l'individu absolu comme la vodka absolue ». Et d'ailleurs, on l'a évoqué ce matin, et Wilfried l'a évoqué, à travers cette dictature du projet personnalisé, individualisé, qui met, une fois de plus, à mal le collectif. Donc un petit détour par l'anthropologie. Lorsqu'on est anthropologue ou ethnologue, nos cousins, et qu'on commence à faire un terrain, on commence d'abord par essayer, c'est ce que j'ai fait pour mon dernier terrain qui était un groupe pygmée, les Batois, en République démocratique du Congo, on commence par essayer de repérer le mythe des origines. Parce que le mythe des origines, il va nous permettre déjà de comprendre la représentation du monde qu'a le groupe, mais aussi, à travers le mythe, comment ce groupe gère quelque chose de très important pour tous les groupes sociaux, la gestion de la transgression, et aussi comment l'organisation sociale va se structurer entre profane et sacré, et comment ils vont gérer les pivotements des temps profanes au temps sacré. La gestion du pivotement du profane au sacré, c'est les rites de passage. Les rites de passage, il y en a des milliers, des millions, et sans doute des spécifiques à certains groupes sociaux. Mais les anglo-saxons, qui ont succédé à Van Gennep, notamment Leach et Turner, ont évoqué quatre rites de passage plus importants que les autres et qu'on retrouve dans quasiment tous les groupes sociaux. Et lorsque je fais un terrain, c'est ces quatre séries de rites que j'étudie d'entrée de jeu. Vous les connaissez, c'est les rites d'enfantement, les rites de puberté sociale, qui vont nous intéresser plus particulièrement puisque c'est le passage du monde des enfants au monde des adultes, les rites d'alliance et les rites de funérailles. Un petit mot sur chacun d'entre eux. Le rite d'enfantement, c'est très facile de faire un enfant. C'est beaucoup plus difficile de le mettre au monde. Comment on le met au monde ? Comment on peut être mis au monde et quelle est la place de ceux et celles qui me mettent au monde? Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça va être un peu compliqué, hein, avec tous les débats éthiques qu'il y a chez nous sur les possibilités de mettre au monde un enfant. Je pense à un collègue, Serge Ephèse, qui accompagne quelques hommes trans qui ont conservé leur utérus et qui sont donc de premiers hommes enceints. Les rites de puberté sociale. Comment grandir? Comment accéder au statut d'adulte? Vite ou pas? Avec qui? Comment? Et là aussi, on voit un paradoxe extraordinaire dans les sociétés modernes. C'est que la sociologie nous apprend quand même qu'en France, en moyenne, un petit Français, une petite Française, décohabite à 22 ans. C'est-à-dire, c'est la moyenne, à partir du moment où il va vivre seul, en chambre d'étudiant ou en coloc, peu importe. Mais on apprend aussi que l'âge moyen médian de l'autonomie financière complète, pour un petit Français ou une petite Française, c'est plutôt entre 27 et 28 ans. Sauf que, et les travailleurs sociaux qui sont là, vous le savez, à la protection de l'enfance et à la protection judiciaire de la jeunesse, on va vous expliquer qu'à 18 ans, c'est terminé. Il faut être autonome, il faut être adulte. Voilà. Et heureusement, la loi de protection de l'enfance de février 2022 va interdire la mise en appartement des mineurs, puisque nous avions quand même beaucoup de mineurs en appartement ou en hôtel. Voilà, plus exactement. L'appartement, c'est permis, c'est l'hôtel, la mise en hôtel qui est interdite. Et puis, le rite d'alliance, donc on pourrait appeler plus particulièrement mariage, puisqu'on ne peut pas se marier si on n'est pas adulte, avec un invariant qu'on va retrouver aussi dans toutes les sociétés, y compris la nôtre. Qui j'ai le droit d'épouser? Là, sacrée question. On avait demandé à Lévi-Strauss s'il y avait un truc pour éviter la guerre. Il avait dit oui, il y a un truc pour éviter la guerre, l'échange des femmes. Ce n'est pas la traite des blanches, C'est quand une femme israélienne pourra se marier avec un Palestinien et que tout le monde fera la fête. Avec aussi quelque chose qui nous interroge jusque chez nous. Là encore, Lévi-Strauss le rappelait, il y a deux tabous. sur cette question-là. Les femmes stériles et les hommes célibataires. C'est-à-dire ceux qui ne jouent pas le jeu de la reproduction de l'espèce. Il faut relire les travaux d'Irène Théry, grande spécialiste de la famille, qui montre à quel point il y a eu une grande hypocrisie dans l'histoire des familles françaises, avec des échanges d'enfants, des subterfuges pour lutter contre l'impuissance du mari, etc. Mais c'est les fameux secrets de famille. Voilà. Et puis, les rites de funérailles, puisqu'on voit bien que dans les sociétés modernes, la mort s'efface de nous, alors que justement, les rites de passage ont pour fonction d'apprivoiser la mort réelle par un ensemble de morts symboliques. Chez nous, nos ancêtres se dissolvent dans les limbes, alors que dans les sociétés coutumières, ils sont bien présents. Alors à quoi ça sert le rite, et notamment pour les ados? D'abord, c'est une mise à l'épreuve, mais qui va... Et une mise à l'épreuve qui n'est pas angélique. Certaines mises à l'épreuve dans les sociétés coutumières sont extraordinairement violentes et on n'en réchappe pas toujours. Mais c'est une mise à l'épreuve qui va accorder une place, un statut, des liens, une reconnaissance. Et là encore, je pense à un de mes anciens étudiants qui a dépassé le maître, qui s'appelle Jocelyn Lachance, et qui publie beaucoup d'ouvrages sur les adolescents, qui vient d'en publier un sur les tentatives de reconnaissance chez nous. Les tentatives de reconnaissance, on voit bien les infirmières, les travailleurs sociaux, les dernières roues de la charrette, quelle est la reconnaissance des métiers de l'humain. Mais surtout, les rites ont pour fonction d'assurer la cohésion sociale, c'est-à-dire, pour reprendre un terme de Turner, de faire communauté. Donc, quelques mots sur celui qui nous intéresse le plus, le rite de puberté sociale, donc qui n'a rien à voir avec la puberté physiologique. Là encore, je fais très vite, je vais juste donner des flashs, comme ça, rapidement. Van Gennep avait repéré que tous les rites de passage se structurent en trois temps. Et il avait joué sur la métaphore du passage en disant que finalement, la vie quotidienne, c'est le profane, et le temps du rite, c'est un temps sacré. Donc il faut gérer ce pivotement en trois temps, qu'il avait nommé préliminaire, liminaire, post-liminaire, en jouant sur l'étymologie latine limen, qui veut dire seuil. Donc les préliminaires avant le seuil, les liminaires sur le seuil, les post-liminaires après le seuil. Dans ce rite, qui peut effectivement être très court, quelqu'un, je ne sais plus qui l'évoquait, mais un rite de puberté sociale chez les Sioux Oglala, ça dure 7 jours pour faire d'un enfant un adulte. Mais quand même, chez certaines ethnies Congo, ça peut durer 3 ans pour un garçon, donc ce n'est pas toujours aussi, aussi court. Le préliminaire, c'est quoi? Le premier temps, c'est la mort symbolique à l'enfance, et elle est souvent théâtralisée de manière violente. Mais cette mort symbolique à l'enfant, à l'enfance, elle a un objectif, pour les garçons comme pour les filles qui prônent de devenir femme ou homme. C'est la séparation d'avec la mère. C'est-à-dire que dans une société coutumière, on ne peut pas devenir adulte sans s'être séparé préalablement de sa mère. Et ça, il y a peut-être quelques tanguis qui n'ont pas capté chez nous. Le deuxième temps, le liminaire, c'est le temps de l'initiation proprement dite. C'est le temps de la transmission. Un sujet aussi pour les travailleurs sociaux qui nous est cher. Mais c'est aussi le temps du passage de la nature à la culture du groupe. Le passage de l'infance sans parole à l'adulte droit à la parole. Et puis aussi, j'aurais presque envie de faire un clin d'œil à l'ami psychanalyste. Freud rappelait que le passage de l'enfance à l'âge adulte, ou plus exactement pour lui, de la sexualité infantile à la sexualité adulte, c'était, disait-il, le passage du Sinnlichkeit au Sachlichkeit, je vous le traduis, le passage de la pulsion à la tendresse. Et on sait bien que chez les ados, ça pulse, et que quand la tendresse survient, ça s'apaise un peu. Voilà. D'une certaine manière, le temps de l'initiation, c'est un temps de gestion des pulsions. Et puis très souvent, après ce temps liminaire, il y a le marquage rituel, qui a été aussi évoqué par M. Merlier ce matin. marquage rituel qui peut prendre des formes très très diverses, depuis le bijou jusqu'à la mutilation, y compris mutilation sexuelle. Mais quand même, c'est étonnant de se rendre compte que les marquages rituels les plus fréquents du passage à l'âge adulte, c'est les tatouages et les piercings. Or, pour les moins de 20 ans ne peuvent pas le connaître, mais pour les gens de ma génération, début des années 90, c'est le début de la banalisation du tatouage et du piercing. Avant, c'était réservé à des groupes marginaux, il y avait très peu. Voilà. Et à partir de la fin des années 80, début des années 90, les boutiques de tatoueurs et de pierceurs se déploient comme les champignons dans les sous-bois en automne. Mais si vous regardez bien, c'est quand même s'il y a des vieux qui peuvent rentrer dans la boutique, c'est quand même beaucoup les jeunes générations. Et puis le post-liminaire, quand l'initiation est terminée, c'est la reconnaissance par le groupe, puisque je vous rappelle, c'est pas important pour l'individu. Hein. Si ça fait du bien à l'individu, ben, c'est bénéfice secondaire. C'est d'abord important pour le groupe qui a besoin de renouveler. Dans les sociétés coutumières, plus on a d'hommes, plus on est fort, plus on a de femmes, plus on est riche. Hein, donc il faut, voilà. Et par exemple, un des groupes que j'avais étudié, les Kbaya en Centrafrique, ben, quand un papy ou une mamie décède, on prend un garçon ou une fille pour remplacer, parce qu'il faut qu'il y ait au moins autant. Voilà. Donc ce post-liminaire, c'est vraiment la reconnaissance par l'ensemble de la tribu, et souvent des tribus voisines, qu'on appelle pour leur montrer qu'on est plus fort ou plus riche avec de nouveaux hommes ou de nouvelles femmes, mais c'est aussi un temps d'inscription dans la filiation et dans l'héritage. Et là encore, on ne peut pas s'empêcher de penser à nos sociétés de l'hypermodernité. Je pense à Lyotard qui a forgé le concept de postmodernité. Mais quand Lyotard forge ce concept, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que nous sommes dans un temps de la fin des grands récits. Hein, c'est-à-dire qu'on n'y croit plus trop, hein, ces affaires-là, et nous ne sommes plus des héritiers. Hein, voilà. Alors que le rite de passage, justement, promeut justement l'inverse. Donc, mes étudiants me demandaient, maintenant je suis retraité, ils me le demandent moins, mais souvent ils me disaient, mais vous n'avez pas une définition simple des rites ? Et je disais, mais les rites de passage, ou les rites même en général, on pourrait dire, c'est simplement y mettre les formes. Y mettre les formes. Et nous avons, et c'est en ce sens que nous avons besoin des rites. Les rites, c'est simplement marquer du respect. Hein ? Si vous invitez des amis chez vous pour la première fois, hein, allez, les futurs beaux-parents, allez, pour enfoncer un peu le clou, ben vous allez faire le ménage, faire le plat que vous aimez bien, sortir la belle nappe, etc. Ben vous ritualisez, vous y mettez les formes. Ritualiser, c'est y mettre les formes, c'est respecter le sujet. Et souvent, même dans les espaces, malheureusement parfois, du social et du médico-social, on n'y met pas assez les formes. Je pense par exemple à une expérience, enfin une expérience, non, un travail que j'avais fait dans ce qui s'appelait encore à l'époque des IME, des instituts médico-éducatifs, où il y avait un IMP, donc pour les enfants, et un IM pro pour les ados. Voilà. Et la directrice s'étonnait, et l'équipe s'étonnait, que les enfants appréhendaient, avaient une angoisse terrible du passage de l'IMP à l'IM pro. Alors que pourtant, à l'IMP, ils étaient dans des dortoirs collectifs, ils avaient moins d'argent de poche, moins de liberté, et que dans la partie IM Pro, ils avaient une chambre individuelle, plus d'argent de poche, plus de liberté, etc. Et ça ne marchait pas. C'était une source d'angoisse. Aucun enfant voulait aller à l'IM Pro. Mais ce n'était pas ritualisé. Donc on a travaillé avec l'équipe pour organiser un rite de passage de l'IMP à l'IM Pro. Depuis, ils ont tous envie d'y aller à l'IM Pro. Voilà, c'est de marquer le respect. Avec les ados, on peut faire plein de choses. Bon, on a évoqué le cirque tout à l'heure. Moi, j'accompagne une entreprise d'insertion par la cuisine. Ben, quand une prestation a été réalisée, que ce soit une prestation culinaire ou une prestation circassienne, et que des adultes viennent applaudir la prestation d'adolescents, ils les reconnaissent. Ils sont dans une démarche de reconnaissance. Sinon, effectivement, On est dans quelque chose qui a aussi été évoqué ce matin et que rappelle très bien David Le Breton, c'est-à-dire que toutes les conduites à risque des jeunes, vous savez, dans les conduites à risque des jeunes, elles sont pléthores. Hein, et d'ailleurs, les jeunes nous en inventent de nouvelles tous les jours. Mais il y a trois invariants qu'on retrouve dans toutes les conduites à risque des jeunes auxquelles vous êtes confrontés dans les MDA. Le premier invariant, c'est un rapport au corps. Le deuxième invariant, c'est un rapport au signifiant mort. Et le troisième, c'est un rite intime de passage. C'est-à-dire l'essai bricolé du jeune, non pas de faire un rite de passage comme les sociétés coutumières qui vont assurer la cohésion sociale d'un groupe, mais de se donner l'illusion de pouvoir grandir par lui-même. Ma dernière recherche, qui était une recherche franco-québécoise qui m'a pris 3 ans, c'était sur un sujet qu'on a brièvement abordé, mais par l'aspect le moins sympathique ce matin, c'était sur les ados LGBTI, et on pourrait rajouter plus et d'autres lettres. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est par exemple que c'est pour beaucoup de... pratiquement tous ces adolescents, le coming out, c'est-à-dire la révélation de son objet amoureux à ses proches, ou en tout cas à son cercle d'élection, est vécu comme un rite de passage. Mais aussi, plus récemment, les Suisses ont compris que travaillent actuellement sur l'échec scolaire, et ils ont compris, peut-être un peu plus vite que nous en France, qu'il y a 2 paramètres très importants qui expliquent l'échec scolaire et puis après le décrochage scolaire. Le premier paramètre, c'est les conflits de loyauté. C'est quand dans les différents espaces de socialisation, le même discours n'est pas tenu. Ce que dit papa, c'est pas la même chose que ce que dit le maître, c'est pas la même chose que ce que dit le grand frère. Et le deuxième paramètre, c'est la mauvaise gestion des passages. Passage de l'école maternelle au CP, passage du CM2 à la 6e au collège, passage du collège au lycée. Et que lorsqu'on gère ces passages, et donc en Suisse, il y a une ritualisation des passages et des cycles scolaires pour éviter l'échec et le décrochage scolaire. Donc, vous avez senti, à la question qui est le titre de mon intervention, faut-il réinventer des rites de passage? Oui, bien sûr. Mais attention, hein, pas n'importe quoi. Ce que j'ai souvent eu l'occasion de dire, notamment à des travailleurs sociaux qui initiaient des rites de passage, on dirait pédagogiques, parfois d'ailleurs sans utiliser le terme rite de passage. Voilà, ils faisaient des rites de passage comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. C'est qu'il faut tenir finalement la structure ternaire que Van Gennep avait repérée, hein, préliminaire, liminaire, post-liminaire, ou on pourrait le dire autrement, dans un projet pédagogique ou éducatif, l'avant, le pendant, l'après. S'il n'y a pas d'avant, eh ben on gère simplement un colis en souffrance, voilà, et ça explose. C'est ces gamins qu'on déplace sans leur avoir expliqué quoi que ce soit et qu'on dépose dans un endroit en se disant on le case là puisque personne n'en veut. Et puis pensez aussi l'après, parce que parfois il y a des expériences pédagogiques très fortes, mais il n'y a pas d'après. On pense notamment à l'après-CEF ou l'après-CER. Et on retrouve des gamins en pleine décompensation, parce qu'ils ont été accompagnés de manière très forte à un moment donné et lâchés tout de suite après. Bien sûr, les rites de passage dont on a sans doute, en matière éducative, les plus parlé, c'est tous les voyages à caractère initiatique qui ont fleuri fin du XXe siècle et début du XXIe. À un moment donné, il y avait plus de petits délinquants que de grains de sable dans les déserts du Maghreb. Voilà, voyages à caractère initiatique qui ont parfois été tout à fait chouettes, mais qui ont aussi donné lieu à de nombreux faits divers avec détournement d'argent, affaires de mœurs et compagnie. Ce qui a amené la fameuse circulaire PJJ de 2005 qui fait que organiser un voyage initiatique, c'est possible, mais il faut s'accrocher. Et il faut préparer ça une bonne année à l'avance parce qu'il y a un sacré paquet de choses à pouvoir. Mais peut-être rappeler aussi que les rites de passage en matière éducative, ce n'est pas forcément très onéreux. Un rite de passage, ça peut être très simple. Ça peut être simplement fêter un anniversaire. je me suis occupé il y a quelque temps de cela d'un jeune homme qui allait très très mal, qui était dépressif et qui a retrouvé le sourire, qui était un petit Boris de 17 ans et qui a retrouvé le sourire grâce à un placement dans une famille d'accueil. Et lorsque le sourire est apparu, j'ai pas pu m'empêcher, puisque je le connaissais bien, de lui dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que tu vas mieux ?» Et il m'a dit « Mais Thierry, ici, c'est la première fois qu'on m'a fêté mon anniversaire. » Voilà. Vous voyez, donc quelque chose qui l'inscrivait dans la communauté des vivants. Voilà, donc c'est peut-être simplement cela, pour cela que nous avons besoin de rites, pour inscrire dans la communauté des vivants. Alors que le grand défi auquel vous êtes confrontés aujourd'hui, les travailleurs sociaux, face à ce monde de plus en plus individualiste, c'est-à-dire qui aspire à de plus en plus de liberté, moi le premier, hein, mais sans mesurer le prix à payer, c'est que votre enjeu, c'est lutter contre l'isolement, et évidemment l'isolement des plus précaires, hein, des vieux, des handicapés, des pauvres, des milieux populaires. Voilà, c'est pour ça que finalement, ritualiser, c'est simplement marquer un respect et inscrire dans la communauté des vivants. Et les ados, c'était d'ailleurs en exergue du programme que vous avez, ont besoin d'être reconnus. Je vous remercie.
Merci à vous, Thierry Goguel d'Alendance.